Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je m'attendais vraiment pas à un jour être dans l'accompagnement, donc ça s'est fait petit à petit. Et puis à un moment donné où ben, ça faisait un an quasiment que je tenais ce rythme de double vie, où je me suis dit là, je commence à vieillir quand même. Mes enfants commencent à me poser des questions et ont besoin de moi. Ce serait pas mal que j'aie plus de temps aussi pour ma famille, pour eux. Et puis j'ai évalué là où ça me donnait de l'énergie, ma vie, quelle vie me donnait de l'énergie et quelle vie m'en prenait, ou quelle vie m'en donnait plus. Et très rapidement, j'ai vu que c'était la seconde vie, j'ai envie de dire.
Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Et ce fameux moment où ça a commencé à changer, c'est grâce à une rencontre, tu as rencontré une coach qui était la mère d'un ami d'un de tes enfants. Est-ce que tu peux me parler de cette rencontre et aussi du fait que toi, coach à l'époque, tu regardais ça un peu d'un mauvais œil?
Donc à l'époque, en plein questionnement, en plein malaise intérieur, etc., en effet, ça n'allait vraiment pas et ça commençait vraiment à peser. Je me souviens, je suis allée chercher mon fils Louis à l'école et j'ai rencontré la maman d'une amie de mon fils. Et donc on a papoté, elle s'est présentée et puis elle m'a dit qu'elle était coach. Et moi, à l'époque, tout ce qui était coaching, accompagnement, je trouvais que c'était surfait, déjà à l'époque, je trouvais. Et que c'était un métier qui était un peu fourre-tout. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des coachs nutrition, sportifs, de vie, professionnels, etc. Et je ne savais pas ce que c'était vraiment. Et j'avais vraiment un très, très gros a priori sur le coaching. Donc, je lui en ai parlé, je lui ai dit « Ok, mais j'ai un gros a priori, qu'est-ce que c'est ?» etc. J'ai voulu comprendre. Et elle m'a invitée à faire une séance ou deux de coaching avec moi. Et elle m'a dit « Je te comprends, moi j'étais un peu comme toi. Viens, je te fais une ou deux séances de coaching et tu verras que quand c'est le bon moment, quand les questions sont bien posées, eh ben, il se passe des choses. » Et donc là, je lui ai dit « Bah oui, bingo, on y va, je vais essayer. » Et donc, je me souviens d'avoir pris un café, un petit déj avec elle, parce que je me suis dit, oui, on va faire une petite séance en mode tranquille, avec un café, un cappuccino. Et en à peine, j'ai envie de dire, une demi-heure, juste par un enchaînement de questions, elle m'a fait éclater en sanglots. Alors, chose rare pour moi, puisque je sais comment, enfin, à l'époque, je gardais vachement mes émotions et même je les étouffais. De me rendre compte que d'un seul coup, je me suis mise à pleurer et que finalement, j'ai compris parce qu'elle a mené par son questionnement à me faire comprendre que cette envie d'Asie n'était pas juste l'Asie, mais vraiment le Vietnam. Ben, ça a été vraiment une révélation pour moi, clairement.
Et le Vietnam, est-ce que t'as compris pourquoi ? Enfin, pourquoi le Vietnam ? Est-ce que t'as aussi été aidée à comprendre ?
Ah ben oui. Et pourquoi le Vietnam ? Oui, j'ai clairement compris pourquoi et ça a été vraiment presque un choc, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était à la fois parce que je connaissais pas du tout, c'est mes racines quand même, et que j'avais vraiment envie de transmettre à mes enfants. Lorsque mon plus grand me posait des questions, « Maman, pourquoi chez mamie il y a un hôtel des ancêtres ou des choses qui étaient liées à la tradition vietnamienne ?» J'étais incapable de l'expliquer. Et je me suis retrouvée un peu bête plusieurs fois en me disant « mince, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, c'est là, mais je ne sais pas pourquoi ». Et j'avais vraiment envie de transmettre ça à mes enfants. Et puis l'autre raison aussi, c'était qui était tout aussi profonde, j'ai envie de dire, c'était mon papa est décédé, comme je l'ai dit, il y a plusieurs années en arrière, pendant que je faisais mes études de médecine. Et lui avait toujours rêvé de retourner en Asie et de retourner au Vietnam avant de mourir un jour. Et il n'a pas pu le faire. Et c'était vraiment, j'ai envie de dire, comme honorer sa mémoire, de pouvoir y retourner, de pouvoir y aller, puisque j'étais jamais allée, de pouvoir aller et puis faire cette expérience pour lui finalement et pour mes enfants.
Et donc une fois que cette envie était un peu plus structurée dans ta tête, t'en as parlé à ton mari, comment est-ce qu'il a réagi, est-ce qu'il a été compréhensif ?
Et en effet, quand j'ai expliqué à mon mari que c'était pour toutes ces raisons-là que j'avais cette envie viscérale et si oppressante finalement d'aller en Asie, mais pas en Asie, au Vietnam, parce que j'avais envie de transmettre à mes enfants, parce que j'avais envie d'honorer la mémoire de mes parents, et pas que, enfin de mon père, mais aussi de mes ancêtres, etc. etc. C'était tellement une évidence pour moi finalement, que c'est devenu une évidence pour lui, et j'ai eu de la chance qu'il ait compris, parce que lui, il n'a aucune racine vietnamienne, il est français complètement, et il m'a suivi dans cette aventure, c'est-à-dire qu'il m'a dit « Ok, je comprends, laisse-nous juste un an et demi, finir notre expatriation africaine, et puis si vraiment c'est aussi important pour toi, ben on va y aller, quoi qu'il arrive. »
Et vous avez commencé par un voyage en mars 2019 pour aller un peu tâter le terrain, je vais dire, du pays. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé là-bas, quand tu es arrivée, est-ce que ça a été une révélation ? Et tu m'avais parlé aussi du vol retour où pour toi tu t'es dit c'est une évidence ce pays, il faut absolument que j'y aille.
Et c'est vrai que on avait décidé, quoi qu'il arrive, de partir un an et demi après cette discussion là que j'ai eue avec mon époux au Vietnam, que ce soit parce qu'on a trouvé un métier tous les deux là-bas, un emploi, ou juste partir à l'aventure, deux enfants, 8 valises et puis basta. Mais avant ça, quand même, il fallait qu'on vérifie que ça soit pas une grosse bêtise, puisqu'on avait des enfants quand même et on pouvait pas faire n'importe quoi. Donc on est parti en mars 2019 faire 10 jours de repérage à Ho Chi Minh, dans le sud du Vietnam. Et on s'est rendu compte, en fait, on est arrivé à Ho Chi Minh avec juste un ou deux contacts. Et très rapidement, au bout du deuxième jour de rendez-vous, on a fini à avoir 4-5 contacts par jour, 4-5 rendez-vous par jour. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était très facile, entre guillemets, de rencontrer du monde et de créer un réseau. Donc on s'est dit, déjà professionnellement, c'est intéressant, on peut trouver facilement. Et puis après, personnellement aussi, on a pu goûter à la vie locale, voir si ça nous convenait, voir si le quartier qu'on avait choisi était quelque chose qui était bien pour les enfants, pour nous. Et pareil, c'était quelque chose qu'on a validé, et je me souviens, parce que c'était quand même un coup de folie de partir potentiellement comme ça à l'aventure, parce que c'était une option. Dans le vol retour, lorsqu'on a décollé du Vietnam pour rentrer en Côte d'Ivoire, je me souviens, j'étais au niveau du hublot, et lorsque j'ai regardé l'avion décoller, et d'ailleurs j'ai la chair de poule encore d'ailleurs, je me souviens d'avoir eu une montée de larmes et de me dire en fait c'est exactement là où on doit être, et pas que je, mais vraiment où on doit être d'ici quelques temps. Et c'est ce qui me semblait totalement logique de faire, et c'était ce pays-là et pas autre, pas ailleurs.
Et pourquoi cette envie de vivre dans le pays et pas juste un long voyage, par exemple ?
Je sentais vraiment qu'il fallait qu'on aille habiter là-bas, au Vietnam, parce que on avait fait déjà des petits voyages de 15 jours, de quelques... Enfin, on en avait fait deux. Un seul avec mon époux, un avant quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais on avait fait un voyage avec mon époux et mes enfants en 2017, juste de 15 jours, et ce n'était pas suffisant. Parce que pour renouer, en tout cas, c'était comme ça que je le sentais, pour renouer avec la tradition vietnamienne, avec l'histoire, avec la compréhension de la culture vietnamienne, du fonctionnement des Vietnamiens, de mes ancêtres finalement. Je ressentais le besoin de passer vraiment du temps, en fait, sur place. Pas juste une semaine, pas deux semaines, pas un mois, tout ça, c'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin, et je pensais, et c'est toujours le cas, qu'il fallait qu'on soit complètement immergé dans cette culture. Et pour le coup, être immergé dans cette culture, c'est y vivre 24 heures sur 24, y travailler, voilà.
Et donc, en août 2019, c'est le grand départ. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous vous préparez avec ta famille? Et aussi, comment réagissent tes proches au fait que tu t'en vas, tu quittes l'Afrique, tu pars encore plus loin de la France en termes de kilomètres?
Je me souviens que cette décision a été de partir au Vietnam a été annoncée officiellement un peu à tout le monde après mars 2019. Et pour nous, c'était mûri déjà depuis on va dire août 2018. Donc pour nous, on était prêts. Mais c'est vrai que l'annoncer à la famille, ça a été, et aux amis aussi, ça a été pas toujours facile et pas toujours accepté. La famille, ça a été compliqué, parce que, et notamment ma maman qui n'avait pas compris pourquoi on lâchait tout, que ce soit deux super postes, un poste d'expatrié, un super poste pour moi qui n'était pas forcément un poste d'expatrié, mais quand même dans de magnifiques conditions. Un pays où on se sentait bien, un cadre, une école, enfin vraiment, j'ai envie de dire, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et partir à l'aventure au Vietnam. Parce que finalement, on a décidé de partir à l'aventure au Vietnam. On n'avait pas trouvé de job tous les deux pour aller au Vietnam. Donc, on est vraiment parti à l'aventure au Vietnam. Donc, tout lâcher pour partir dans un pays qu'on ne connaît pas, sans avoir de boulot, avec deux enfants en bas âge, c'était de la pure folie pour la famille. Ensuite, une partie de la famille a quitté le Vietnam aussi dans des situations qui n'étaient pas évidentes. De guerre, etc. à l'époque, et revenir potentiellement, voir quelqu'un de la famille revenir au Vietnam, c'est aussi quelque chose qui a été émotionnellement dur pour certaines personnes de la famille, parce que ben, on a tout fait pour partir. Pourquoi tu es en train de revenir? Qu'est-ce qui te prend? N'oublie pas une partie de tes ancêtres qui, bon, bref, je la fais courte, mais ça a été aussi compliqué pour la famille. Et les amis, par contre, ils nous ont tous trouvés complètement dingues en disant « ça y est, ils sont en train de faire leur crise de la quarantaine avant l'heure ». Mais même s'ils nous ont trouvés fous, ils étaient là, ils nous ont soutenus, mais ils avaient vraiment peur pour nous. Peur qu'on n'y arrive pas, peur qu'on regrette au bout d'un certain temps, peur de tout ça, quoi.
Bon, malgré tous ces avis, vous êtes quand même partie. Comment ça s'est passé l'arrivée là-bas? Déjà, vous étiez plus du tout dans une vie d'expatrié. Vous n'avez plus la belle maison, tout ça, au Vietnam. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et m'expliquer aussi l'adaptation à cette nouvelle culture, du coup, qui est différente quand même de là où tu étais avant.
C'est vrai que malgré tout cela, on est parti à l'aventure donc en août 2019. Et donc, comme je disais, deux enfants, huit valises, sans rien, sans appartement, sans rien sur place. Et on a trouvé sur place, donc on a trouvé un appartement. Donc ça nous changeait clairement de passer de magnifiques maisons avec des jardins et des piscines à un appartement dans une ville qui est bruyante, qui grouille en permanence. Partir en ayant un emploi stable, presque garanti à vie, etc., d'expatrié à rien du tout et devoir trouver nous-mêmes, ça a été un sacré challenge, mais on avait étudié, j'ai envie de dire, et on avait pensé à toutes les options, les meilleures comme les plus dramatiques possibles, donc on s'est plutôt bien adapté. On avait décidé de prendre un peu de temps avant de commencer à travailler, mais très rapidement, le mental est arrivé en disant « Non, non, mais là, vous avez deux enfants, c'est pas du tout la même vie, vous n'avez aucune garantie, donc cherchez du boulot. » Et on a commencé à chercher un travail tous les deux. Et on a trouvé presque trop rapidement, j'ai envie de dire, chacun un emploi. Donc on n'a pas pu profiter de ce temps de pause. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est adapté à la vie locale, c'est-à-dire que on a intégré tous les deux des équipes différentes de sociétés vietnamiennes ou françaises basées au Vietnam. Et donc, on a baigné dans des équipes vietnamiennes. Et donc, c'est comme ça qu'on a finalement commencé à comprendre la mentalité du pays, le fonctionnement, ce qui était important, et à commencer à comprendre les gens de par ces différents métiers qu'on a, enfin ces métiers qu'on a exercés. Et puis souvent, bah, les week-ends, on prenait le temps de sortir, d'être au contact avec, avec les gens, de parler. Alors moi, j'ai la chance de baragouiner vietnamien, donc c'était plus facile. Il y avait moins la barrière de la langue. Donc c'est comme ça qu'on s'est créé un petit peu ce cocon et puis surtout cette adaptation au pays.
Et donc toi, tu es quand même retournée vers un poste donc en logistique, si je me souviens bien. Pourquoi ? Alors qu'avant, tu avais plutôt des envies de changer, de trouver un autre métier. Et là, au final, tu retournais à une expérience que tu avais un peu déjà vécue. Pourquoi est-ce que tu as décidé de pas tout de suite changer de métier, mais de retourner un peu vers une autre expérience ?
C'est vrai que déjà en Côte d'Ivoire, comme je disais, je me posais des questions déjà de ce que je voulais faire et j'avais commencé déjà via l'accompagnement, le coaching avec mon ami, via aussi plein de bouquins et de formations que j'avais pris autour de tout ce qui était développement personnel, thérapie, accompagnement. J'avais déjà cette envie en effet d'essayer de trouver quelque chose qui m'anime, qui me fasse vibrer. Mais c'est vrai qu'arrivé au Vietnam, les peurs m'ont rattrapé, clairement. Les peurs m'ont rattrapé, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, est-ce que je vais me lancer là dans je ne sais pas quoi. Déjà, à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire encore. Il faut peut-être que j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Et puis, ça me permettait aussi, en effet, de connecter avec des Vietnamiens et de comprendre leur mentalité. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était logique à ce moment-là pour moi de reprendre un emploi dans ce que je connaissais, même si ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire et je savais que je n'allais pas le faire longtemps. J'avais aussi prévenu les personnes qui m'ont embauchée que ça n'allait pas durer. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cet emploi-là, en me disant que c'était sur une courte période.
En fait, tu avais un peu la peur de trop de nouveaux. Tu avais déjà un nouveau pays. Si en plus tu rajoutais un nouveau job avec quelque chose où tu pars de zéro, c'était peut-être ça aussi qui te faisait peur.
Complètement. En fait, j'avais peur en effet de trop de nouveaux, trop d'insécurité. Parce qu'il y avait le Vietnam qui était nouveau, il y avait la scolarité des enfants qui était nouvelle, puisque dans des langues, ok, un peu le français, mais aussi de l'anglais, du vietnamien, etc. Il y avait la non-connaissance du pays, il y avait le non-salaire qui tombait, parce qu'on est parti sans rien, donc il n'y avait pas une sécurité financière lorsqu'on est arrivé. Donc il y avait tout ça qui a fait qu'il y avait toutes ces peurs qui sont activées, et je me suis dit, ok, la meilleure des solutions, c'est me rassurer au minimum sur au moins le côté financier et d'avoir quelque chose qui tombe tous les mois à deux déjà au début et puis voir qu'est-ce qu'on fait après.
Et donc à côté de cet emploi en logistique, tu continues malgré tout à essayer de chercher un peu ce qui t'anime et donc tu suis des formations sur des sujets qui te plaisent. Est-ce que tu peux m'expliquer lesquelles et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ces formations ?
Ouais, c'est vrai que, comme je disais, en Côte d'Ivoire, j'avais commencé à faire une formation dans tout ce qui est process communication modèle. Donc, c'est tout ce qui est communication, management, aussi un côté de développement personnel dans cet outil-là. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et comme je disais, à chaque fois, c'est les hasards de la vie ou les rencontres qui m'amènent à évoluer. Et durant cette formation de ProcessCom, le formateur m'avait parlé d'hypnose. D'hypnose, mais plutôt hypnose ericksonienne, qui est de l'hypnose souvent utilisée en thérapie, et pas du tout de spectacle, ce qui n'a strictement rien à voir. Et donc ça a commencé à me titiller, et c'est resté dans un coin de ma tête. Et arrivé au Vietnam, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'hypnose, comprendre, le pratiquer pour moi. En tout cas, par curiosité, je suis allée faire une formation, j'ai fait un aller-retour du Vietnam à la France pour faire une formation intensive en hypnose ericksonienne. Et de cette formation, je suis sortie avec les yeux pleins d'étoiles en me disant « Mais mon Dieu, mais cet outil est juste extraordinaire pour soi, pour les autres, pour se libérer de plein de blocages. » Parce que j'étais, de par mon processus d'évolution et de compréhension via le développement personnel, la thérapie, etc., je sentais que ça avait déverrouillé chez moi des blocages, des croyances, etc., etc. Et l'hypnose je pense que la formation d'hypnose a donné un gros coup de pied dans la fourmilière et a un peu cassé toutes mes croyances et mes blocages. Et donc j'étais passionnée par cet outil. Je suis rentrée au Vietnam en parlant de cet outil, juste en présentant cet outil, en expliquant que ça existait. Et petit à petit, il y a eu des personnes qui sont venues me voir en me disant ben, « j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur telle problématique, etc. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner via l'hypnose au début. Et puis après, on m'a posé d'autres questions après.
Et commencer à accompagner des gens comme ça, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as commencé à sentir que bah, c'était ça en fait qui t'animait?
En fait, je ne m'attendais pas du tout à faire de l'accompagnement. Tu vois, c'est vraiment des personnes qui sont venues me voir en disant bah, « j'aimerais bien que tu utilises ton outil hypnose sur moi, ok ?» Et j'ai commencé à le faire et en effet, j'ai commencé à prendre plaisir. Et ces personnes sont revenues plusieurs fois en me disant bah, « j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur… » sur du plus long terme, sur des questionnements de vie, des questionnements professionnels, etc., etc. Et là, bah, mon côté, tu sais, très perfectionniste, très exigeante, je me suis dit, mais là, je ne peux pas accompagner sur du long terme, je ne suis pas coach. Et je me suis formée au coaching pour pouvoir accompagner ces personnes qui me demandaient. Et je commençais vraiment à prendre plaisir. Et à l'époque, je me souviens, pendant quasiment un an, j'avais une double vie. À la fois ma vie de salarié classique au sein de ce groupe de logistique et à la fois bah, toute ma vie déjà qui commençait autour de l'accompagnement parce que j'accompagnais des gens, parce que je me formais au coaching et à d'autres outils, parce que bah, c'est tout ça qui m'apportait de l'énergie aussi, quoi.
Et justement, cette double vie, est-ce que tu peux être un peu plus concrète et me dire, tu m'avais dit telle heure, c'était le bureau, là, l'accompagnement, ensuite la formation. Est-ce que tu peux me redire un peu plus concrètement à quoi ta vie ressemblait, en fait?
Oui, et c'est vrai que pendant un an, cette double vie a été extrêmement intense. C'est-à-dire, je me réveillais le matin, j'allais au bureau vers 8h, 8h30, jusqu'à 18h, 17h30, 18h. Je rentrais, je m'occupais de mes enfants tant que je pouvais, je les couchais, et puis à partir de 20h, quelquefois, j'avais déjà des accompagnements, que ce soit en thérapie, que ce soit en coaching classique. Donc, j'avais une ou deux séances, alors pas tous les jours, heureusement, mais j'avais peut-être une ou deux séances par semaine, comme ça. Et puis, une à deux fois par semaine, en effet, puisque je me formais au coaching et c'était en distanciel, j'avais des cours qui commençaient à 2h du matin. Donc, je me réveillais à 1h30 du matin, deux fois par semaine. Et j'étais avec mon cast audio par Zoom pendant quasiment 2h à suivre des cours. Je me recouchais pendant 1 heure ou 2. Et puis, je recommençais ma journée. Mais c'était extrêmement intense et je ne sais même pas avec le recul comment j'ai tenu, mais je pense que c'était... J'aimais tellement ce que je faisais dans tout ce qui est accompagnement et j'adorais tellement tous ces outils que je trouvais l'énergie de me réveiller et de tenir le rythme. Ouais.
Et toi qui avais justement des a priori il y a très longtemps sur ce métier, le fait de bon, t'être fait accompagner, ça tu l'avais fait il y a quelques années, mais de là accompagner des gens, est-ce que tous les a priori que tu avais sur ce métier se sont effacés en fait?
Oui, alors par rapport à tous les a priori que j'avais sur accompagnement, coaching notamment, ça s'est évaporé, très rapidement, notamment lorsque j'ai commencé de faire des séances de coaching avec mon ami, et surtout en effet lorsque j'ai commencé moi à accompagner, c'est-à-dire que vraiment quand on pose les bonnes questions au bon moment, il se passe des choses chez la personne et c'est juste extraordinaire à voir les changements, les déverrouillages, comme j'aime bien le dire, de croyances ou de blocages. Et oui, aujourd'hui, j'ai aucun doute que tout ce qui est accompagnement, notamment coaching, thérapie, etc., sont des outils extraordinaires qu'il faudrait spreader vraiment au maximum, quoi, parce qu'il suffit de quelques séances, tout simplement, quelquefois, pour que tout change, ouais.
Et donc, à partir de quand tu t'es dit cette activité que je fais à côté de mon travail, je vais la faire à plein temps et je vais quitter mon entreprise?
Ça ne s'est pas fait tout de suite parce que de décider de me lancer vraiment full time, en temps plein dans l'accompagnement, ça ne s'est pas fait tout de suite parce que je ne pensais pas du tout un jour passer par cette case de l'accompagnement. J'y passais par cette case parce que je sais qu'il y aura d'autres choses aussi qui vont m'attendre toujours autour des personnes, de l'accompagnement, etc., mais peut-être pas sous cette forme, mais je ne m'attendais vraiment pas à un jour être dans l'accompagnement, donc ça s'est fait petit à petit, et puis à un moment donné où bah, ça faisait un an quasiment que je tenais ce rythme de double vie, où je me suis dit là, je commence à vieillir quand même, mes enfants commencent à me poser des questions et ont besoin de moi, ce serait pas mal que j'aie plus de temps aussi pour ma famille, pour eux. Et puis j'ai évalué là où ça me donnait de l'énergie, ma vie, quelle vie me donnait de l'énergie et quelle vie m'en prenait, ou quelle vie m'en donnait plus. Et très rapidement, j'ai vu que c'était la seconde vie, j'ai envie de dire. Et dans l'accompagnement, donc au bout de, 10 mois, un an, j'ai décidé de lâcher mon emploi dans cette société de logistique pour me lancer pleinement en tant que coach, accompagnante, thérapeute.
Et alors, les premiers pas en tant que personne à son compte, du coup, parce que tu étais entrepreneur finalement, comment c'était? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui t'a plu d'être seule?
Alors, déjà, quand j'ai pris la décision de me lancer à mon compte, pareil, famille, amis m'ont dit « mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais ?» Ça y est, deuxième crise, deuxième crise de l'avant-quarantaine. Parce que je ne connaissais strictement rien au métier d'entrepreneur, enfin en tout cas à la case entrepreneur, je ne connaissais strictement rien. Et donc, comme je ne connaissais rien, j'avais de toute façon décidé lorsque je me suis lancée, d'être accompagnée. Donc j'ai été accompagnée, moi, par des consultants, etc., pour m'expliquer comment ça fonctionne finalement l'entrepreneuriat, pour pas me planter. Et c'est vrai que ça a été hyper challengeant parce qu'en effet, quand tu es entrepreneur, tu es seul, tu n'as plus de collègues. Quand tu es entrepreneur, c'est toi qui donnes ton propre rythme. Donc tu peux procrastiner trois fois plus aussi, comme travailler trois fois plus. Donc on peut tomber dans les deux travers. Tu peux, c'est toi qui tient ta barque, donc c'est à toi de faire rentrer les finances, c'est à toi de créer ton réseau. C'est vraiment, en fait, c'est pas qu'un métier. Entrepreneur, c'est tous les métiers du monde, j'ai envie de dire. Et ça a été difficile au début. Heureusement que j'ai accepté et j'ai choisi de me faire accompagner pour comprendre comment ça fonctionnait. Et puis la solitude, je savais déjà avant de me lancer que la solitude pouvait me peser, sachant que j'aime les gens et que j'adore interagir. Donc j'ai créé déjà en amont énormément de liens. Donc c'est moi qui suis allée vers d'autres entrepreneurs, vers d'autres accompagnants, vers des personnes, et je me suis créée finalement des collègues, des équipes, des collabos. Donc j'ai créé quand même très rapidement une petite équipe comme ça, avec qui je pouvais échanger, partager les difficultés, être soutenue ou soutenir.
Et donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es coach et dans quoi tu t'es spécialisée? Quel type de personnes t'accompagnent?
Et aujourd'hui, ça fait maintenant, on va dire officiellement 3 ans que je suis coach et thérapeute. Et j'accompagne, ce qui m'anime, j'accompagne vraiment, c'est accompagner des personnes à sortir un peu des cases, j'ai envie de dire, du salariat. Tu vois, c'est un peu le profil bon élève qui a suivi ce que papa et maman ont voulu, qui ont coché les cases d'une vie professionnelle plutôt réussie, qui ont gravi les échelons et qui un jour se réveillent en se disant « mince ». Peut-être que je me suis oubliée, peut-être que je ne me suis pas assez écoutée et peut-être que finalement je peux faire tout autre chose et j'ai envie d'avoir plus de sens, j'ai envie d'avoir plus d'impact dans ma vie. Et l'entrepreneuriat est potentiellement un chemin qui m'appelle parce que me donne cette liberté, parce que me donne cette opportunité de grandir. Et donc j'accompagne aujourd'hui souvent des cadres et des managers à sortir du salariat pour créer finalement leur entreprise à impact, leur entreprise sociale quelquefois aussi, et à changer complètement de vie par des outils de coaching comme de thérapie. Ouais.
C'est finalement des gens de ce que tu me décris qui ressemblent un peu à ton parcours, parce que tu me dis qu'ils ont suivi le schéma familial, ça a été ton cas au départ. Aussi le côté de cocher toutes les cases, tu as quand même occupé des hauts postes. Donc au final, tu t'accompagnes des gens qui ont une expérience similaire à la tienne.
Complètement. C'est souvent ce qu'on voit hein, finalement dans les accompagnements. On accompagne des personnes qui nous ressemblent. Et c'est vrai que c'est clairement mon profil de s'être oublié, d'avoir coché les cases, d'avoir fait pour les autres, d'avoir vécu presque pour les autres et de décider un jour maintenant de vivre pour soi et de créer sa vie. Et aussi de faire sauter ces blocages. Parce que souvent, quand on est comme ça, au début, on a énormément de blocages, énormément de croyances, énormément de poids familial qui sont sur nos épaules, et de finalement faire sauter tout ça, transformer tout ça pour le rendre plus libre. Et j'aime bien parler de, quand on me dit comment tu accompagnes, je parle souvent d'accompagner les gens vers une reconversion qui est alignée et affranchie. J'aime bien utiliser ces mots. Alignée parce qu'alignée à qui on est vraiment. Donc c'est vraiment bien se connaître, mieux se comprendre et affranchie, c'est affranchie de ces cases et des croyances qu'on pense devoir porter.
Et peut-être une dernière question pour terminer cette interview. Toi qui as toujours aimé le voyage et même si tu voulais aussi te reposer, tu as toujours aimé apprendre de nouvelles choses, est-ce que tu penses que tu vas rester au Vietnam et faire coach toute ta vie ou est-ce que tu penses qu'un jour ce besoin de changement va revenir te titiller dans l'avenir ?
C'est vrai que j'ai toujours eu besoin et j'ai toujours aimé apprendre, voyager, découvrir. Et je sens que de toute façon, ces valeurs, j'ai envie de dire même, sont importantes pour moi et ces besoins sont importants pour moi. Et je sais clairement que le Vietnam, c'est une étape. Donc je sais que je ne vais pas rester longtemps au Vietnam encore. Ça fait 4 ans qu'on y est aujourd'hui et je pense qu'on y sera encore quelques années, mais pas plus. Et puis le métier de l'accompagnement, aujourd'hui, je sais qu'il va rester, quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce qu'il va rester sous la forme dans laquelle j'exerce aujourd'hui ou je crée aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il va prendre d'autres tournures. Et puis après, moi, je suis une multipassionnée, donc j'ai un besoin aussi de faire plein d'autres choses. Et au-delà de ce métier-là qui est mon métier phare, je fais déjà plein d'autres choses. Donc je sais que ça va continuer à bouger, toujours autour de l'humain, toujours autour de l'accompagnement. Mais ça va continuer à bouger. Et le pays, c'est sûr qu'on va changer bientôt. Ouais.
Et le pays, tu as déjà des envies ou ça avait déjà un peu...
Pas du tout, pas du tout. Aucune envie précise. Je me dis pourquoi pas revenir en Afrique, pourquoi pas essayer la France, parce que finalement, je n'ai jamais réellement bossé en France, à part quand j'étais étudiante et plus jeune. Donc je ne sais pas, on se laisse libre cours à nos envies et nos désirs et on verra bien. Ouais.
Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.